C'est vrai que Jésus nous a choisis par sa grâce. On ne méritait rien, on n'est pas meilleur que les autres, mais Dieu nous a choisis. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu a de la valeur à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas jugé suivant les critères de ce monde, mais pour Dieu, tu as de la valeur. Et c'est ça qui compte. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu que notre identité, elle est définie maintenant par Christ. Elle n'est plus définie par les hommes, elle n'est plus définie par les critères de ce monde, mais elle est définie par Christ. Et on a vu la semaine dernière que sans doute qu'il y a un travail de déconstruction à faire dans nos vies, dans notre cerveau, hein, pour que, eh ben, si jusqu'à maintenant il a eu du mal à avoir une estime de lui-même, une valeur, une confiance en lui, aujourd'hui l'enfant de Dieu, il est appelé à reconsidérer comment le Seigneur voit notre valeur. Et donc pour ça, il y a sans doute une déconstruction à faire. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, l'estime de toi, ta valeur, la confiance en soi. Elle n'est plus basée sur les critères de ce monde, mais elle est basée sur les critères du royaume de Dieu. Autant quand nous sommes dans ce monde, l'apparence physique est fondamentale, les capacités naturelles, le statut social, le compte en banque, le métier que tu fais, tout ça est fondamental pour espérer avoir une bonne estime de soi. Mais on a vu combien c'était fragile, hein, parce que tout ça est fondé sur le sable. Et quand la tempête arrive, on l'a vu par exemple à travers le Covid. Quand le Covid est arrivé, il y a eu beaucoup de suicides. Parce que les gens ont tout perdu financièrement et ils n'avaient plus rien. Et donc, on voit bien que tout était basé sur l'argent et malheureusement, ça reste fragile. Par contre, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'avec la nouvelle naissance, en Christ, Dieu te redonne tous tes attributs que tu avais avant le péché. Hein? En Christ, tu as de l'importance. En Christ, tu es en sécurité et tu as le sentiment d'appartenance. Tu n'es plus orphelin, tu n'es plus seul. Et ça, c'est solide parce que Jésus, il est l'alpha et l'oméga et il ne change jamais. Et ta valeur ne changera jamais. Si tu oses mettre ta valeur en Christ, alors ta valeur ne changera jamais. Parce qu'elle ne changera pas par rapport à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Elle est basée sur Christ, sur ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ta valeur, tes dons, tes capacités sont déterminées par Dieu. Dieu se choisit des hommes et des femmes suivant ses propres critères. Et il t'a choisi. Hein? Si on regarde la Bible un instant, on regarde un petit peu et on dit tous les hommes de Dieu, eh ben, si ils avaient été sélectionnés par rapport aux critères de ce monde, ben, il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'hommes de Dieu qui auraient été appelés. Hein? Quand on voit, par exemple, Abraham, quand il a été choisi, il était vieux. Il a été choisi. Jacob, on ne peut pas dire qu'il était fiable. Jacob était peu fiable. Léa, elle n'était pas belle. Et elle a été choisie. Joseph, il a subi des abus dans sa vie. Il a été choisi. Moïse, il bégayait. Gédéon, il était pauvre. Samson était influençable. Rahab, la prostituée, avait un passé immoral. Elle a été choisie. David a eu une liaison extra-conjugale et une multitude de problèmes familiaux. Élie, il voulait mourir. Jérémie était déprimé. Jonas, il était désobéissant. Naomi était veuve. Jean-Baptiste était excentrique. Pierre était impulsif, colérique. Marthe, souvent inquiète. La femme samaritaine avait eu de nombreux mariages ratés. Zachée était un voleur. Thomas avait perpétuellement des doutes. Paul était un violent. Timothée, un timide. Bon, la liste est longue, on pourrait la continuer. Vous voyez ? Et pourtant, Dieu a utilisé toutes ces personnes, considérées suivant les critères du monde comme inadaptées au service, il t'utilisera aussi. Il saura faire de ta misère ton ministère. Amen. Il ne faut pas douter un seul instant de ta valeur. Et ça, il y a sans doute une déconstruction à faire pour comprendre qui on est en Christ aujourd'hui. Les critères du monde développent une mentalité de comparaison. Nous sommes toujours en train de nous comparer si nous nous basons sur les critères du monde. Il y a de la rivalité, de la jalousie. Et bref, on n'est jamais à la hauteur des standards de ce monde. Ce qui entretient chez l'être humain un stress permanent, un perfectionniste illusoire et écrasant afin d'essayer d'être à la hauteur. C'est fatigant d'être à la hauteur, très fatigant. Cela entretient aussi une honte invisible, lancinante, avec en arrière-plan et souvent de manière inconsciente, un sentiment d'imposteur. Tout pour être mal dans sa peau, susceptible, fatigué de la vie. Vous avez la description ici du piège de regarder aux standards de ce monde et de vouloir acquérir les standards de ce monde. Toujours en train de se comparer aux autres. Toujours essayer d'être mieux que les autres. Toujours être en rivalité. Toujours être en jalousie. Et finalement, on cherche toujours quelque chose qu'on n'arrivera jamais à avoir. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. À l'inverse, les critères du royaume de Dieu sont reposants, parce que c'est Jésus qui a tout accompli pour nous. Et nous n'avons rien à prouver, à l'inverse de ce monde, où tu as tout à prouver pour être accepté, pour essayer d'être aimé. Avec Dieu, tu n'as rien à prouver. Notre valeur ne dépend pas de ce que l'on fait ou pas fait, de nos capacités ou de nos avoirs. Notre valeur vient du fait que Jésus nous a choisis et que nous avons accepté son invitation. Voilà ce qu'on a fait. On a juste accepté son invitation. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Cela vient uniquement de sa grâce et non pas de nos mérites. Quel repos. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est protéger notre cœur. On a vu la semaine dernière la protection de notre cœur parce que l'ennemi, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, l'ennemi ne cesse de nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure façon pour lui de nous attaquer, c'est tout ce qui va créer comme dispute, comme querelle entre les relations des êtres humains. S'il veut nous faire mal, il va essayer d'utiliser nos proches et que ça se passe mal. C'est la meilleure façon pour lui de nous amener à ne pas protéger notre cœur et à se retrouver blessé. Alors j'ai fait un petit tableau qui récapitule un petit peu l'enseignement. Pour se protéger, notre cœur, tout ce qui se passe dans notre cœur, on va devoir faire attention à bien réaliser qui nous sommes en Christ. Si nous savons qui nous sommes en Christ, alors nous sommes, je dirais, indéboulonnables. Nous avons un fondement, nous sommes sur le fondement, et quoi que nous disent les gens, ça ne vient pas nous remettre en cause. C'est fondamental de penser ça, parce que tant qu'on n'a pas confiance en nous, et tant qu'on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, alors ce que les autres vont dire sur nous va avoir une importance, et peut venir nous déstabiliser. Surtout que c'est des gens proches. Mais si nous savons qui nous sommes en Christ, alors nous ne serons pas déstabilisés. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir ce soir, c'est qu'il faut qu'on apprenne à gérer nos attentes envers nos proches. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est le thème de ce soir. Et ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est découvrir comment fonctionnent les offenses en détail. On va aller en détail, en profondeur, pour voir comment fonctionnent les offenses qui amènent les blessures dans notre vie. Et on est entouré, on l'a vu la première fois, on est entouré d'un bouclier, de l'amour de Dieu, et qui fonctionne avec le pardon. Et on verra aussi qu'est-ce qu'est vraiment le pardon et comment pardonner. Parce que c'est indéniable, le pardon et l'amour de Dieu, ça va ensemble. Et là, vous voyez, c'est un bouclier. Si notre cœur est bien protégé, le bouclier de l'amour et du pardon va faire que les attaques de l'ennemi ne pourront pas nous atteindre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer sur cette terre en ayant conscience de tout ça, en ayant conscience du mal qui existe sur cette terre, mais nous, notre responsabilité, comment nous réagissons par rapport à ça? Et là, vous avez le résumé, en quelque sorte, de comment on résiste à ça en protégeant notre cœur, en faisant attention régulièrement. On a vu la dernière fois avec le petit cadeau que je vous ai fait de relire ces versets-là. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il a été programmé d'une certaine manière avec toutes ces années. Et on a besoin de le déprogrammer et de lui dire qui nous sommes en réalité. Donc, c'est tout un travail. Vous savez, c'est comme à l'école. À l'école, on vous fait répéter plusieurs fois les choses pour que vous compreniez bien. Et bien là, c'est la même chose. Il faut déprogrammer notre cerveau et il faut le reprogrammer à l'image de Christ. Et donc, ensuite, ces deux choses-là sont en coordination. Tout ça, c'est une relation humaine. C'est là que l'ennemi va essayer de nous atteindre. Et donc, il est important de connaître les attaques de l'ennemi, comment il fait, et c'est important de savoir comment résister à l'ennemi. Et donc, ce soir, on est ici. Comment gérer nos attentes envers les proches? On a vu les conséquences de la désobéissance et le péché. On a eu une perte de l'amour inconditionnel de Dieu. L'homme est devenu imparfait. Il est influencé par le péché et il ne peut transmettre qu'un amour imparfait. Et donc, forcément, notre croissance, c'est-à-dire depuis qu'on est enfant, notre croissance, elle a été imparfaite puisqu'on nous transmet un amour imparfait. Cette croissance étant imparfaite, elle a généré des manques et des carences affectives. Tout le monde, ou je dirais personne, n'a reçu un amour parfait. Au fond de chacun de nous, il y a un petit garçon, il y a une petite fille. Elle n'a pas disparu. C'est juste que la petite fille et le petit garçon, ils ont grandi. Mais il y a toujours le petit garçon, la petite fille, qui souffre des carences affectives qu'elle n'a pas reçues. Le problème, c'est que bien souvent, nous nous trompons de source pour abreuver nos besoins affectifs. Ce sont des besoins existentiels qui nous arrivent. On va les regarder tout simplement tout à l'heure. Qui sont inscrits dans notre ADN. Ils sont spirituels. Ils ne peuvent être comblés que par celui qui les a créés, Dieu lui-même. Nous avons été formatés pour vivre sans Dieu. C'est comme ça. On a été formaté depuis le péché, depuis qu'on est petit, pour vivre sans Dieu. Il n'y a que quand on grandit que, par la grâce de Dieu, on peut découvrir qu'il y a un Dieu et qu'il nous a créés. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à cette conscience-là, nous sommes formatés pour vivre sans Dieu. Nos liens affectifs ne pouvaient se faire qu'à travers d'autres êtres humains. Il n'y avait pas le choix. Même aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont des liens affectifs qu'avec les autres êtres humains. Imparfaits et en besoin d'amour. Nous avons cherché l'amour parfait inconditionnel. Je parle de la petite fille et du petit garçon. Ils cherchent un amour, c'est inconscient, mais ils cherchent à être aimés pour ce qu'il est. Celui qui nous permet d'être acceptés comme nous sommes. Mais nous ne l'avons pas rencontré. Mais tout simplement parce qu'il n'existe pas auprès des êtres humains. C'est un premier mensonge de l'ennemi, nous faire croire que même nos parents peuvent avoir pour nous un amour parfait, inconditionnel. Ce n'est pas du ressort des êtres humains. Dans la vie, tu ne peux donner que ce que tu as. Alors, regardons un petit peu ces carences-là. Donc, ça, ce sont des carences. Alors, peut-être que par la grâce de Dieu, tout le monde n'a pas eu ces carences-là. Mais je veux dire que c'est les besoins d'abord, les besoins que nous avons besoin pour grandir sainement et que, pour beaucoup, il y a eu des carences dans ces besoins-là. Donc, on a besoin de l'affection, c'est le besoin fondamental de recevoir l'amour et la tendresse nécessaires à une saine croissance. Ensuite, on a un besoin d'attention, le besoin intime, personnel, d'avoir la présence significative de quelqu'un qui s'intéresse à nous. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là d'avoir des parents qui s'intéressaient tout le temps à leurs enfants. Ensuite, il y a le besoin d'admiration, le besoin d'éveiller chez les autres un sentiment de fierté et de satisfaction à l'égard de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Hein. Quelqu'un qui nous regarde et qui est fier de nous, qui a la satisfaction, qui peut dire « Je suis fier de toi, mon enfant. Je suis fier de ce que tu as fait. Je suis content de ce que tu es aussi. » Pas seulement de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Et enfin, le besoin d'acceptation. Le besoin profond d'être inclus et reconnu comme nous sommes, je dirais aussi malgré ce que nous sommes. Aucun parent ne peut répondre parfaitement à ses besoins. Et ces quatre besoins, c'est en gros l'amour que nous avons besoin pour nous développer. Et cet amour-là, eh ben, inconsciemment, on le recherche toute notre vie tant qu'il n'a pas été comblé. La bonne nouvelle ce soir, c'est que cet amour-là, il est possible de le combler en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seulement. Ça qu'il faut comprendre ce soir. C'est que ce soir, si vous cherchez ça auprès d'un être humain, vous serez déçu parce qu'il recherche la même chose que vous. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Comment demander à quelqu'un qui nous donne ce qu'il n'a pas ? Compliqué. Et pourtant, pour l'enfant, ses besoins, ils déterminent s'il se sent aimé ou pas. C'est là le problème. Le problème, c'est que la construction de l'enfant, ben, elle se fait petit à petit, mais quand elle se fait avec ces carences-là, qu'est-ce qu'il en déduit ? Il en déduit qu'il n'est pas aimable. Il en déduit qu'il n'est pas aimé. En tout cas, qu'il ne se sent pas aimé. Parce qu'inconsciemment, il est en recherche de ça, puisque ça fait partie de son ADN. Il n'a pas encore la compréhension de tout ce qu'on dit ce soir. Mais il subit ce qui se passe dans sa vie. Et bien souvent, eh bien, puisqu'il manque ces caractéristiques d'amour, l'enfant ne se sent pas aimé. L'enfant ne se sentant pas aimé, il ne développe pas une saine croissance. Et donc, il n'a pas une valeur exacte de qui il est. Sa valeur, elle est en comparaison avec les autres. Sa valeur, elle est en fonction de l'attitude de ses parents. Et comme nos parents sont imparfaits, même les meilleurs parents du monde, eh bien, l'enfant grandit en pensant qu'il lui manque quelque chose. Penser que nous sommes aimés détermine notre image de nous-mêmes et par conséquent, notre confiance en nous. Donc, c'est normal que l'enfant, et on le voit surtout à l'adolescence, manque de confiance en soi. Ils ne se sont pas forcément aimés. Tout n'est pas conscient, une partie est inconsciente. Dans ce qu'il recherche, il n'est pas forcément conscient, mais en réalité, il recherche à travers d'autres êtres humains l'amour qu'il n'a pas reçu. Le proverbe 23:7 dit ceci, « Car l'homme est comme les pensées de son âme. » Qu'est-ce que l'enfant pense de lui ? Ce que l'enfant pense de lui, c'est ce qu'il va devenir. Au lieu de recevoir l'amour tant attendu, hein, on l'a vu dans l'introduction, nous avons bien souvent été déçus, et même pour certains, maltraités, et ça a occasionné les blessures. Donc les 5 blessures qu'on a bien détaillées, notamment dans l'introduction. Hein. Certains ont connu l'abandon, certains ont connu la trahison, certains l'humiliation, l'injustice, le rejet, et certains ont connu tous les 5, faisant un lot commun. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il ne faut pas oublier que ça, ce n'est pas ce qui détermine ta vie, ce n'est pas ce qui détermine ce que tu es, parce que tout le monde subit ce genre de blessure. Donc on a un tableau qui n'est pas forcément idyllique, c'est un tableau de la réalité de l'humanité dans lequel nous vivons et dans lequel nous essayons de tirer notre épingle du jeu. Et on voit que c'est compliqué. Et c'est compliqué pour tout le monde. Après, individuellement, chacun peut raconter ses blessures. Individuellement, chacun peut dire « Ouais, mais moi, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. » Et c'est mon ministère. Hein, je suis dans la relation d'aide et ma vie, je la passe à écouter les histoires des gens. Donc, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais toutes les histoires se ramènent à ça, malheureusement. Et malheureusement, c'est à travers ces blessures que les gens, quand ils ne sont pas enseignés, ben, ils se déterminent. Comment ils ont honte d'eux-mêmes. Comment ils n'ont pas confiance en eux. Comment ils ont une petite estime d'eux-mêmes. Et le problème, c'est que ça va déterminer le reste de leur vie si ils ne font pas un reset. Comme un ordinateur. Un reset. Pour déconstruire toutes les pensées qu'ils ont eues sur eux. De façon à les ramener dans la réalité. Et la réalité, c'est Christ. Christ était là avant la fondation du monde. Il sera là jusque dans l'éternité. De ramener tout en Jésus-Christ, qui tu es en Jésus-Christ, ça, c'est la vérité. Le reste, c'est du mensonge. Le reste, tu ne peux pas être déterminé par ce qui t'est arrivé. Pourquoi ? Parce que c'est le monde entier qui est sous la puissance du malin. C'est le monde entier qui souffre. Donc, ce n'est pas toi spécifiquement. Il ne faut pas que tu en fasses un caractère personnel. Bien sûr qu'il t'est arrivé des choses comme tout le monde. Mais si tu détermines qui tu es par rapport à ce qui t'est arrivé, alors tu rentres dans le mensonge de l'ennemi. Et tu seras malheureuse ou malheureux parce que ta vie va être déterminée par rapport à ce que tu crois de toi. Mais ce n'est pas la vérité. Ces carences affectives sont une vraie source de souffrance. Elles nous envoient un message, celui de ne pas se sentir aimable et de n'avoir point de valeur. La souffrance est telle qu'elle plonge l'être humain dans un mal-être intérieur, nourri par des pensées toxiques, des émotions comme la honte, comme la culpabilité, comme la peur, règne en maître. Et beaucoup sont obligés de s'engourdir en abusant des plaisirs de ce monde qui finissent par les détruire. Des plaisirs qui vont devenir de vraies dépendances. On les connaît, la cigarette, le zamal, l'alcool, les drogues dures, la pornographie, phénomène montant, phénomène inquiétant qui va bouleverser la culture des êtres humains. La pornographie qui va donner une image tellement sale de la sexualité qui aura des conséquences dans les familles. C'est déjà le cas, mais ça va s'aggraver avec l'IA, avec tout le développement qui se fait autour de ça. C'est une industrie qui est en train de prendre des proportions incroyables et on commence tout juste à en mesurer les conséquences. Le sexe, les réseaux sociaux, la nourriture, le sport, le travail, l'activisme, et la liste est longue. Pour d'autres, ce sera une perte de la dignité de son corps en l'offrant à celui qui leur aura promis l'amour qu'elle recherche inlassablement et pour finalement connaître à nouveau la désillusion. Quelle tristesse. C'est ce que dit la Bible. Ce sont ce qu'on appelle les citernes crevassées. Dans Jérémie, car mon peuple a commis un double péché. Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. À l'image de la Samaritaine, qui avait soif d'être aimée. Et vous voyez comment ça s'est retourné contre elle ? À force d'avoir des mariages ratés, à force d'aller de mari en mari, elle s'est taillée une mauvaise réputation. La honte était sur elle. Et vous voyez qu'à chaque fois, elle a cru qu'elle allait recevoir de l'amour. Mais c'était comme un puits sans fond. C'est un amour humain. Et on a besoin de recevoir l'amour qui vient de la source d'eau vive. Quand Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais demandé à boire et tu n'aurais plus jamais soif. Comblé par l'amour de Dieu. C'est un amour intarissable, un amour inconditionnel. Et si tu t'attaches à cet amour-là, c'est ta vie qui va être complètement transformée. Ta vie va être transformée si tu t'attaches à rentrer dans cette intimité avec Jésus, à goûter à l'amour de Dieu, à goûter à cet amour-là. Celui-là, il ne te fera jamais défaut. Il ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te rejettera jamais. Bien sûr, ce n'est pas un homme. Bien sûr, tu ne le touches pas, il n'est pas physique. Mais c'est un amour qui vient combler tes besoins spirituels qui sont dans ton ADN. Tous ces besoins qu'on a vus tout à l'heure et que tu recherches auprès des hommes. C'est le grand mensonge de l'ennemi. Te faire croire que c'est dans un être humain que tu vas pouvoir trouver ce qui te manque et te combler. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que tu pourras être comblé. Ça aurait mérité un bel amen. Hein ? Ah oui. Quiconque boit de cette eau aura encore soif de cette eau humaine, cette eau que tu vas chercher auprès d'un être humain. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'on va développer ce soir. Tu vois ? Au lieu d'avoir des attentes irréalistes auprès des êtres humains. Si tu es comblé par l'amour de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu auras moins d'attentes avec les êtres humains. Tu vas les prendre comme ils sont et tu vas les aimer parce qu'il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de déception parce que tu sais que tu es comblé par Jésus-Christ et ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Mais tant que tu n'as pas pris conscience de ça, et on va le voir ce soir, eh bien, tu seras déçu par les êtres humains. Tu seras déçu par les êtres humains. Et tu t'en voudras à toi, parce que ben, peut-être que quelquefois, tu auras donné ton corps aussi parce qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec toi et tu as fini par céder. Et puis au final, ils voulaient juste ça. Et tu es déçu, et tu es déçu de toi-même. Et il faut se pardonner en plus. Ça t'emmène à la perdition, ça t'emmène à une mauvaise image de toi. Et tout ça parce que tu n'es pas branché à la bonne source. Nous avons besoin d'un véritable lâcher-prise. On a besoin de faire un deuil avec ces attentes irréalistes et d'accepter la réalité. Et c'est quoi cette réalité ? Cet amour qui peut combler notre soif profonde et nos carences affectives, elle ne peut venir que du Créateur et pas de la créature. Il ne faut pas se tromper de source. L'homme, il a un vide dans son cœur. On l'a tous, puisque c'est spirituel, ses besoins affectifs qu'on a vus tout à l'heure. Et Blaise Pascal disait que ce vide, il a juste la forme de Dieu. Et que quand Dieu vient prendre sa place dans un cœur, eh ben, il vient mettre la dernière pièce du puzzle. Mais c'est la plus importante du puzzle. Et tu es complet. Tu es comblé et complet. C'est la complétude en Christ. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Il nous avertit dans sa parole. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Le verbe confier ici, c'est se fier, c'est mettre tout son avenir, c'est mettre toute sa croyance dans un autre être humain qui est imparfait. Le piège diabolique, c'est la déception envers la personne en qui nous avions tellement mis notre confiance. Et les déceptions répétitives viennent réinfecter sans arrêt nos blessures de l'enfance, nous empêchant de nous sentir aimés et finalement de rester malheureux. Et le cycle continue, et le cycle continue encore et encore. Vous comprenez ? Vous comprenez ce qui se passe ? Et vous savez quoi ? Moi, je suis pour le mariage, puisque j'enseigne le mariage. Mais il ne faut pas tout mélanger. Le mariage, c'est excellent. Le mariage, c'est extraordinaire. À partir du moment où Jésus est au centre du mariage. À partir du moment où ta raison d'être, c'est Christ. Et que tu es avec l'autre pour donner de toi à l'autre. Et l'autre est avec toi pour donner de lui à toi. Ça, c'est le vrai mariage. Mais si tu crois que le mariage, c'est venir être comblé par un autre être humain, alors excuse-moi, mais alors là, profite bien de ta belle nuit de noces, parce que les lendemains, ça va déchanter. Bon, c'est encore un mensonge de l'image du mariage. Non, un mariage, ça se construit. Un mariage, c'est le don de soi à l'autre. Et pour certains, je leur dis, réfléchis bien. Peut-être que tu serais mieux à rester célibataire. Parce que certains, Certains pensent que, mais moi, je veux juste une femme, mais je veux continuer ma vie comme je l'ai menée jusqu'à maintenant. J'ai dit, aïe, 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 tu vas faire une malheureuse, mon gars, c'est pas la peine. Nous avons besoin des uns des autres pour vivre. C'est évident, puisque Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça veut dire qu'on a besoin des uns des autres. Mais notre vie ne doit pas être fondée sur un autre être humain. Aussi difficile que ça soit à entendre, dur à entendre. Mais on ne peut pas fonder notre vie sur un autre être humain. Nous sommes dans ce dilemme. Notre besoin des uns des autres et l'imperfection que nous rencontrons dans nos cœurs mutuels. Il faut résoudre le dilemme. Merci. Cherchez le mot. Il faut résoudre le dilemme. Nous ne pouvons agir que sur nous-mêmes. On ne peut pas agir sur les autres. Et la seule manière de faire, c'est de diminuer nos attentes envers les autres humains en ayant des attentes réalistes. Seule façon de résoudre le dilemme. Besoin des uns des autres, mais attention aux attentes que je mets sur les autres. Et je rajouterai que les autres mettent sur moi. Ça va dans les deux sens. Parce que quelquefois, les gens attendent beaucoup de nous. Et il faut être honnête. Il faut leur dire, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Hein? Et qu'il existe Dieu pour ton problème. Mais si tu ne l'acceptes pas, excuse-moi, mais je ne suis pas Dieu. Parce que quelquefois, on arrive même à être culpabilisé parce qu'on a l'impression qu'on n'en fait pas assez pour les autres. Mais on n'est pas Dieu. Vivre nos rapports humains dans la vérité biblique. Trop souvent, nous sommes charnels et nous oublions la puissance du péché. La capacité de chacun à faire le mal à travers des maladresses, des quiproquos, des critiques, des médisances, des jugements. Souvent, on est surpris que ça peut arriver. Mais c'est là où nous nous faisons piéger. C'est là où on a du mal à avoir des rapports qui restent en santé. C'est parce qu'on oublie que la personne avec qui on est ami, avec la personne avec qui on a investi affectivement, que cette personne, elle peut dire des fois du mal de nous, pas forcément intentionnellement, mais par maladresse, par quiproquo, ou parce que, vous savez, on appelle ça, c'est tellement compliqué les rapports humains, on appelle ça la grille de lecture, elle le voit d'une certaine façon, vous le voyez d'une autre façon, et puis là, viennent les attentes. Ah, j'aurais pas cru. Non, mais franchement, j'aurais pas cru ça d'elle. C'était quoi ton attente? Est-ce que tu sais que derrière ce que tu viens de dire, il y a une attente? Et tu la vois pas, l'attente. Parce que là, c'est la blessure qui t'aveugle. Donc, tu vois ce qu'elle a pas fait, ce qu'elle aurait dû faire. Mais tu vois pas que... Mais qu'est-ce que tu attendais? Quelqu'un qui se trompe jamais? Quelqu'un qui fait jamais d'erreur? Quelqu'un qui va jamais dire de mal? Mais dans quel monde tu vis? Pas dans le monde de la Bible, en tout cas. Parce que la Bible ne nous cache rien. Et puis, j'ai envie de te dire, si tu penses ça à l'instant T, mais que celui qui n'a jamais péché, ben, je lui jette la première pierre. Vas-y, jette-lui la première pierre. Ah non, mais quand même, moi, je n'aurais pas fait ça, quand même. Non, non, là je veux bien, mais là franchement, non. Là, ça dépasse. Là. Ça dépasse l'entendement. C'est pas normal. Oui? Humainement, c'est pas normal. Bibliquement, pas forcément surpris. Oui, bien sûr, mais c'est surtout qu'on est tous pécheurs et on a tous des moments dits du mal de quelqu'un où c'est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Est-ce qu'il y a un juste parmi nous? La Bible, non, il n'y a pas un seul juste. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'on a tous besoin de miséricorde, on a tous besoin de compassion. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas meilleur l'un de l'autre. On n'est pas meilleur. Maintenant, on n'est pas là pour se faire abuser, vous comprenez bien. Hein? Rien n'empêche, dans une discussion saine, de dire à son ami, mais j'ai été déçu, humainement j'ai été déçu, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça ou comme ça. Voilà. Mais si on commence à se fâcher avec tout ce qu'on peut entendre sur nous. Mais j'ai peur qu'à la fin de notre vie, on finisse tout seul, dans notre coin. Parce qu'on n'aura pas su comprendre ce qu'est l'être humain. L'être humain, c'est il est à prendre comme il est. Et que nous avons cette relation avec Dieu, ce refuge où on vient en Dieu et puis on vient pleurer dans les bras de Dieu parce que ben on a été déçu, tout simplement. On ne s'attendait pas à ça. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Paul nous dit dans Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre l'être humain, la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est derrière une petite conversation anodine, entre parenthèses, des choses qu'on n'aurait pas dû être dites, qui ont été dites. C'est spirituel. L'ennemi est derrière ça. Et il t'entraîne à dire des choses. Bien souvent, vous avez des gens qui disent des choses, puis après, ils disent « Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. » T'es sûr que tu ne voulais pas dire ça? Ouais. C'est comme si, que par moment, notre cœur méchant reprend le dessus, et puis on sort des trucs, et on juge, on fait de la médisance, on fait des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Et on le fait. Mais il faut regarder plus loin. Ce n'est pas contre l'être humain qu'on doit mettre notre énergie. C'est à combattre le péché. Je dirais qu'au fond de nous-mêmes, nous voudrions tellement que la réalité soit différente. Au fond de nous-mêmes, il y a le petit garçon, la petite fille qui croit toujours qu'on pourrait vivre autrement. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et on devrait tous s'aimer. J'appelle ça le syndrome bisounours. Je pense qu'au fond, nous, on a du mal à accepter la réalité que je décris depuis tout à l'heure. On aimerait tellement que les choses soient différentes. J'ai tellement cru. Avec elle, je pensais que ça allait être différent. On a créé une amitié tous les deux. Et je ne pensais pas que ça allait se reproduire. Ce n'est pas normal. Et on se trouve déçu. On dit, plus jamais je donnerai ma confiance, c'est fini. Et quand c'est un divorce, c'est encore pire. Quand c'est dans le mariage, c'est encore pire. On se dit, mais jamais plus j'aimerai quelqu'un, jamais plus je me marierai, jamais plus j'aurai quelqu'un dans ma vie. La souffrance est tellement forte. Soyons honnêtes.
J'ai un petit souci.
Ok, c'est pas grave. Soyons honnêtes. Difficile pour nous d'admettre qu'il nous faut vivre avec cette réalité. Écoutez bien ça. Que les personnes qui sont les plus proches de nous, que nous aimons et qui nous aiment, ils nous aiment vraiment, hein, c'est ça le pire, ils nous aiment vraiment, peuvent nous décevoir, voire nous trahir un jour. Est-ce que c'est facile? Pas facile, hein, de vivre avec cette idée-là. Et c'est une réalité. Et si on ne prend pas en compte cette réalité-là, on va au-devant de graves difficultés. Attention à nos attentes. Attention à nos attentes. Parce que l'ennemi connaît nos cœurs. Il sait, il connaît le syndrome bisounours. Il voudrait tellement que tu sois surpris. Il voudrait tellement que tu sois déçu. Et on verra la semaine prochaine l'offense. Comment l'offense arrive à ce moment-là. Parce que tout ça est imbriqué, hein. Faut pas croire. Mais tout ça n'est pas dissocié. Ton identité en Christ, tes attentes et les offenses que tu vas recevoir, tout ça, c'est les relations humaines. Tout tourne autour de ça. Et ta conception à toi, la manière dont tu vas prendre les choses, ça va déterminer si tu sais protéger ton cœur et si donc tu continues à être heureuse, tu continues à accepter les gens comme ils sont et tu peux dire « Waouh, Seigneur, heureusement que tu es là et de développer cette relation avec Christ pour pouvoir accepter les êtres humains comme ils sont. Oui. Oui, ça peut arriver, parce qu'on est faillible. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que ta paix, ta joie, comment tu vas développer ton potentiel, ton avenir, eh bien, il est dépendant de tout ce qu'on est en train de voir. Soit tu vas créer des offenses dans ton cœur, soit tu vas créer de l'amertume dans ton cœur. Et dans ce cas-là, on le verra la semaine prochaine, c'est un poison qui pénètre tout doucement dans ton âme, mais qui vient faire mourir quelque chose en toi. Ou soit tu te protèges, tu vis dans la réalité, tu aimes de l'amour de Dieu et tu aimes les gens et tu as décidé de les aimer malgré ce qu'ils sont et malgré ce que nous sommes. C'est compliqué, hein ? Mais c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Parce que si on n'a pas l'amour de Dieu, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de solution. On se dévore tous à un moment ou à un autre. On va tous se blesser à un moment ou à un autre. C'est obligé. S'il n'y a pas le pardon et l'amour de Dieu, alors il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu, pouvoir décider d'aimer l'autre en sachant que des fois, ça va déraper. Et quand, parce que le péché est là, quand c'est trop toxique, ben il faut savoir s'éloigner de ces gens trop toxiques. Hein? Là, on est en train de parler de nos proches. Hein? On est en train de parler de nos parents, de nos frères et sœurs. On est en train de parler des gens proches. Et il arrive malheureusement que, on parle aussi des beaux-parents, aussi que la famille, que si on est marié. Donc, il arrive aussi que le péché a fait son œuvre et que quelquefois vous avez des gens très toxiques. Hein? Je vais vous donner un syndrome qu'on rencontre souvent malheureusement, le pervers narcissique, par exemple. Ben, le pervers narcissique, ben, c'est quelqu'un qui est très difficile à contrôler, qui est très difficile à faire entendre raison. Donc, oui, aimer, mais aimer ne veut pas dire se faire abuser. C'est-à-dire, si à un moment, on a fait notre part et qu'on se rend compte que la personne a vraiment un problème et qu'elle me dévalorise tout le temps ou elle abuse de moi, eh bien, sage décision, je dis, oula, je vais prendre un peu de recul et on va se calmer. Vous comprenez ? Faire attention de ne pas tomber amoureux dépendant d'un pervers narcissique parce que c'est très difficile de s'en dégager. Bon, ce n'est pas le thème de ce soir. Mais voilà, en gros, si vous voulez, c'est un petit peu ce dilemme qu'on doit vraiment affronter dans notre vie pour qu'on puisse continuer à avoir cette vie. Parce que le Proverbe 4, 23 nous dit ceci, « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. » Donc si on veut être dans cette vie dynamique, enthousiaste, où on est heureux de vivre, on est heureux de partager la communion fraternelle les uns avec les autres et tout ça, eh bien, il ne faut pas rentrer dans le piège d'attente irréaliste. Ça va ? Ça va, ça ? Oui ? Non, c'est qu'on a besoin tout simplement d'être rempli de l'amour de Dieu pour le pouvoir le donner aux autres. Hein? Moi, je viens à l'église, je suis un fidèle de l'église, j'aime mes frères et mes sœurs de l'amour de Dieu. Il y en a que je ne connais même pas. Mais je les aime parce que j'ai décidé de les aimer. Et peut-être que parmi eux, il y a des gens qui disent « Oh, c'est Bertrand qui prêche ce soir. Oh là là, là ça va pas être terrible. » Peut-être aussi qu'il y a ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et moi, si le frère me dit ça, je dis « Viens, mon frère. Viens, viens. Moi, je t'aime. » Comprenez ? J'ai décidé d'aimer. Il peut pas me faire de mal parce que j'ai décidé d'aimer. La logique du royaume de Dieu. Ah, la logique du royaume de Dieu. Pas toujours évident, on a été formaté à autre chose. Hein. On a été formaté à œil pour œil, dent pour dent. Attends, il dit ça de moi, lui ? Attends, quand je vais le voir la prochaine fois, attends, je vais lui dire, ah, t'aimes pas quand je prêche ? Mais viens me le dire, non ? Mais non, parce que ça, c'est la vie, ça. C'est comme ça. Est-ce qu'on a l'illusion qu'on va plaire à tout le monde? Est-ce que ça fait encore partie d'une illusion? Hein? Mais on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas grave. Heureusement. Vous imaginez, imaginez un instant, je plais à tous les gens de la terre. Oh, mais quel narcissisme! J'ai un sacré problème. Il faut que j'aille me faire soigner. Non. Et puis, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur moi. Les êtres humains, ben, quand on vient me dire « Oh Bertrand, c'était super, t'as super bien prêché, j'ai aimé. » Alléluia, il n'y a pas de problème. Puis que si on me dit « C'était pas terrible ce soir. » Alléluia, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur moi. Lui, il est infaillible. Il ne faut pas être esclave du regard des autres. Il ne faut pas être esclave des êtres humains. On a été libérés. On a été affranchis pour connaître la vraie liberté. Vous comprenez? Mais c'est à nous de rentrer dans cette liberté. C'est à nous de prendre les choses de la meilleure façon, celle du royaume de Dieu. Et je vous le dis, parce que ce que je vous enseigne ce soir, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a sans doute une déconstruction à faire pour se reconstruire sur une autre base, celle où on protège son cœur. Et pas tout le temps abîmé, pas tout le temps prendre des coups, pas tout le temps être par terre parce que, voilà, on a dit ça sur moi, on a fait ça, ah, regarde-moi. Non. Et Calimero, c'est le syndrome du Calimero, ça. Hein? Pour ceux qui sont jeunes, ils ne connaissent peut-être pas Calimero, mais pour ceux de ma génération, on connaît Calimero. Hein? Calimero, il n'est jamais content, mais ça tombe toujours sur moi. Mais pourquoi moi? Mais la vie est vraiment trop injuste. Et oui, la vie est injuste. Le mal gît sur toute la terre. Donc on a besoin d'être mature. On a besoin de maturer. On a besoin de comprendre les vérités spirituelles parce que Jésus est venu sur cette terre pour nous les enseigner. Il est venu avec le sermon de la montagne. Et quand il a fait le sermon de la montagne, mais ça allait contre toutes les théories humaines, sociales de l'époque. Il aurait pu créer le MLF, le mouvement de libération de la femme. Tellement il a mis la femme en avant, alors que la femme était considérée, était au même niveau qu'un chien. La parole de la femme ne comptait pas. Dans un tribunal, la parole de la femme ne comptait pas. On a du mal à s'imaginer tout ça. Mais Jésus est venu, il a renversé tout ça, il a bousculé tout ça, et il a dit non, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi, bénis ton ennemi. Et ça a dû, les gens ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. J'imagine, moi, quand il a fait le sermon de la montagne, les gens ont dû dire, mais il est complètement fou, celui-là. Mais il nous demande d'aimer nos ennemis. C'est pas possible. Il savait, il connaissait nos cœurs. Il est venu pour libérer nos cœurs. Parce qu'il a bien dit, dans Marc 8, il a dit, mais c'est du cœur que tout vient, tout le problème. Le problème est dans le cœur. Les meurtres, les adultères, les trahisons, tout ce qui fait mal, tout ce qui blesse, c'est parce que le cœur est malade. Il faut soigner son cœur. Ça va? C'est pas choquant? Vous êtes tous là? On continue alors. Si nous refusons de vivre avec cette révélation biblique, ces révélations bibliques, le risque d'ouvrir la porte de la déception est grand. Et écoutez bien ça. Ouvrir la porte de la déception, c'est dangereux. Car nous connaissons l'entrée de la porte, mais nous ne savons pas jusqu'où ce chemin peut nous emmener. C'est un chemin diabolique où l'ennemi est à l'œuvre. Ne soyons pas naïfs. Soyons pas naïfs. La porte de la déception, quand vous êtes déçu, voyez ça comme un signal d'alarme de Dieu. Attention, tu es déçu. Si tu es déçu, c'est que tu as déjà reçu la flèche. Et le message de la flèche, regarde bien le message. Qu'est-ce qu'il te dit ce message-là? Parce que si tu ouvres la porte de la déception et que tu marches dedans en disant vous savez comment ça commence en général? Il y a un petit mot qui résume. Ça commence par c'est pas normal. C'est pas normal. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est pas normal. Et l'ennemi, il a la capacité de pénétrer nos pensées, de nous faire penser des choses. Et là, il est là, à côté de toi, tu ne le vois pas, il est là, puis il fait, mais ouais, c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors toi, tu discutes avec lui, tu dis, mais oui, c'est vrai, c'est pas normal. Tu vois, je veux pas me laisser faire quand même. C'est pas normal quand même. Et là, c'est quand tu dis, c'est pas normal, tu as mis ta main sur la clenche de la porte, de la déception. Et là, tu sais où ça commence, mais tu sais pas où ça finit. Ce chemin peut t'emmener dans la tristesse, peut t'emmener dans l'amertume. Pour certains, cela peut aller jusqu'à la dépression, voire malheureusement jusqu'au suicide. Notre cœur, qui était appelé à aimer et à être aimé, se transforme alors en un désert aride, une terre desséchée, dans une solitude intérieure extrême. Nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous nous retrouvons dans les griffes du diable. Tu n'as plus envie de voir les gens. Les amis t'appellent. Non, je suis pas bien en ce moment. Non. Hop, je reste à la maison, enfermé. J'ai envie de voir personne. Et là, tu es une proie facile pour l'ennemi. Il va te bombarder de pensées négatives, de dévalorisation. Il va même te dire que c'est de ta faute. Et là, tu commences à t'éloigner de l'église. Tu t'éloignes de tes amis, tu vois. Et petit à petit, tu sombres dans une espèce de mélancolie. Premier stade avant la dépression. Un classique du genre. Nos relations, il ne faut pas oublier que nos relations sont spirituelles. Et bien souvent, nous allons en vouloir, ce qu'on appelle l'offense, nous allons en vouloir à celui ou celle qui n'a pas répondu à nos attentes ou qui nous a trahis, rejetés, abandonnés, humiliés. Sans voir qu'en réalité, derrière toutes ces relations humaines, l'ennemi de notre âme est à l'œuvre pour nous emmener sur ce chemin de tristesse et de désespoir, pour voler ainsi notre joie et notre destinée. C'est ça l'enjeu, que tu ne vois pas sur le coup. L'enjeu, c'est t'amener dans la tristesse. S'il t'emmène dans la tristesse, il a gagné. Une fois que tu es dans la tristesse, ça peut mettre beaucoup de temps avant de ressortir. Il y en a qui ne ressortent pas. Il y en a qui ne ressortent pas. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. La Bible nous avertit que la joie, ça fait partie des solutions de la vie. Être joyeux. Et être joyeux, ça se cultive. Être joyeux, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive. Parce que si on attend les circonstances pour être joyeux, on ne va pas souvent rigoler. Hein, malheureusement. Être joyeux, ça se cultive. Ça s'entretient. Être joyeux, c'est regarder à tout ce qui va dans ta vie. Alors, il y en a qui vont dire, mais Bertrand, il n'y a rien qui va dans ma vie. Non. Je vais dire, non, déjà, si tu es chrétien, il y a quelque chose de bien. C'est que Dieu t'a accepté. Donc déjà, c'est déjà bien, ça. Mais le péché nous a tellement déformés qu'on a un problème, c'est que l'être humain n'est jamais satisfait. Oui. L'insatisfaction va avec le péché. Mais on ne s'en rend pas compte. On n'est jamais satisfait. Jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est qu'on ne va pas mettre l'emphase sur ce qui va. On va mettre l'emphase sur ce qui ne va pas. Vous avez remarqué le phénomène ? Il y a 9 choses qui vont bien, il y en a une qui ne va pas. Et toute la journée, je vais regarder celle qui ne va pas. Mais je ne suis pas content, en plus. Il y en a 9 qui vont bien. Ou alors une autre façon de faire, c'est qui est pas mal aussi. Vous avez 10 personnes. Vous en avez 9 qui disent du bien de vous. Il y en a une qui n'a pas dit du bien de vous. Eh bien, vous l'avez en tête toute la journée. Mais pourquoi ? Pourquoi elle a dit ça à elle ? On ne voit pas les 9 qui ont bien parlé de nous. On va juste voir celle-là. Mais pourquoi elle a dit ça, celle-là ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai rien fait, moi, pourtant, à cette fille. Mais pourquoi elle a dit ça sur moi ? Et on a du mal à être satisfait. Et pourtant, la Bible nous dit, soyez joyeux. C'est-à-dire qu'il y a, et Paul le redira dans Philippiens, il cultive le contentement, l'art, il appelle ça l'art du contentement. Hein? Parce qu'il dit, moi, j'ai appris à être bien dans les bons moments. J'ai appris à être mal dans la disette. Mais mal dans la disette, hein? Bien dans la disette. Mais Il a compris qu'il sait se satisfaire du contentement. Et ça, c'est important parce que dans nos sociétés occidentales, vous voyez, on est formaté pour toujours essayer d'avoir ce qu'on n'a pas. C'est le phénomène de la publicité. Ils sont très forts. Parce qu'en fait, quand tu regardes la télé avec la publicité, ils arrivent toujours à te faire croire que si tu avais ça, ah ben la vie changerait. Ah, je t'assure que ma vie serait plus la même. C'est une blague. En fait, c'est une blague parce que rien d'extérieur ne peut venir combler l'intérieur. Mais ils font en sorte que, quand tu vois ça, tu te dis, mais voilà ce qui manque. Mais j'avais pas encore compris. En fait, on est formaté pour être jamais content et imaginer qu'il nous manque toujours quelqu'un. Quelqu'un ou quelque chose. Parce que quelqu'un aussi. Parce que la personne qui est célibataire, elle se dit, mais si j'avais quelqu'un dans ma vie, évidemment que je serais heureuse. Puis celle qui a quelqu'un, elle dit, oh là là là, mais quel calvaire. Finalement, on me dit, mais c'est quoi le... Comment on fait? Oh, dis-donc, toi, tu as de la chance d'être célibataire, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre, tu rentres chez toi quand tu veux, oh, tu n'as même pas obligé de faire à manger. Oh là là, mais tu sais pas la chance que tu as, toi. Et l'autre, c'est ça. L'autre, il pleure. Mais moi, je me sens seul. Non, je ne sais pas s'il y a une solution. Il nous faut le répéter et le répéter encore. La puissance du péché qui agit dans un être humain peut l'amener à faire du mal aux autres et surtout à ceux qu'il aime. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut répéter régulièrement. Et il faut le répéter à son âme. Pour ne pas être surpris. Alors, peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être. Et tant mieux. Parce qu'on est... Et il peut y avoir quand même des choses qui vont bien. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça arrive, soyons pas désappointés. Soyons pas surpris. Si, humainement parlant, on peut avoir une émotion, on peut dire « Oh !» Ouais, c'est la flèche, quand on reçoit la flèche. On peut pas dire « Je reçois une flèche, même pas mal. » Ça n'existe pas. Hein. On reçoit la flèche sur le coup. Oh ! Mais tout de suite, il faut placer ça sur le plan spirituel. Tout de suite, il faut dire « Oh, je suis en danger. Oh, il y a une attaque. » Bien sûr, il y a l'attaque de la personne qui vous a fait ça, mais il y a une attaque spirituelle derrière ça. Et même si vous avez raison, ce n'est pas le plus important d'avoir raison. Le plus important, c'est de protéger son cœur. C'est ça le plus important. Parce que tu peux avoir raison et puis laisser l'amertume rentrer dans ton cœur, puis au final, même si tu avais raison, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Donc, il faut être plus intelligent que l'ennemi. Et que derrière la flèche, c'est de lui dire tu ne m'auras pas. Et comment on fait? Alors là, vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Et comment on fait? Eh bien, on aime cette personne-là. Et oui, de l'amour de Dieu. Pas avec nos sentiments là, parce que là, nos sentiments, à mon avis, ils ne sont pas très bons là. Ils ne sont pas très hauts là. Mais de l'amour de Dieu. On aime cette personne-là. Ça paraît fou, hein, mais je vous dis, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. C'est parce que, en fait, c'est spirituel. Quand vous décidez d'aimer la personne de l'amour de Dieu, il se passe quelque chose. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas rationnel, mais c'est spirituel. Et Dieu met de l'amour pour cette personne. Moi, je l'ai expérimenté deux fois, mais vraiment parce que c'était bien costaud. Deux fois, j'ai dit, moi, je décide d'aimer cette personne-là. Eh bien, c'est génial. Merci, Seigneur. Je suis content d'avoir expérimenté ça parce que j'ai vu la puissance de l'amour. Parce que ça ne venait pas de moi. Parce que avec ce que j'avais reçu là, ce n'était pas possible que moi, je pense ça. Non, on est humain quand même. Mais avec l'amour de Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Et là, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Je veux que tu me donnes tout l'amour pour cette personne-là. Eh bien, c'est incroyable. C'est incroyable. Je me suis retrouvé des fois à la croisée en voiture. J'ai vu son visage. J'avais envie de lui rentrer dedans. Non, je l'aimais. Ah, vous y avez cru, hein? Non, je l'aimais. Je vous assure, c'est inimaginable. J'avais de l'amour pour cette personne-là. Mais c'est puissant. Parce qu'en fait, elle n'avait aucune puissance contre moi. Elle n'avait aucun pouvoir sur moi parce que je l'aimais. J'avais décidé de l'aimer. Génial. Et je l'ai fait deux fois, j'ai expérimenté deux fois. Deux fois, j'ai vécu les mêmes choses. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on n'est pas touché. C'est comme ça qu'on reste debout. C'est comme ça qu'on continue à aimer. C'est comme ça qu'on entretient la joie. Alléluia. Donc, difficile de vivre avec cette réalité. Hein? Mais, en fait, il faut être honnête. À cause de notre nature pécheresse, aucun de nous n'est fiable à 100%. J'aurais dû avoir un amen là-dessus. Enfin, je vais le répéter quand même. À cause de notre nature pécheresse, aucun de nous n'est fiable à 100%. Alors, à partir du moment où on sait ça, ben, on sait que les défaillances peuvent arriver. Hein? On ne peut pas changer le monde. Bisounours, c'est impossible. Plus tard, au paradis, quand on sera avec le Seigneur. Mais tant qu'on est sur ce monde-là, tant qu'on est sur cette terre-là, il faut vivre avec la réalité. Elle n'est pas facile. On voudrait que ça soit autrement, mais elle est comme ça. Si nous refusons de vivre avec cette révélation, mais non, mais je l'ai lu ça. On est là. Il nous faut le répéter encore et encore. On l'a vu. Ouais, c'est celle-là. Paul dira dans Romains 7,15, hein, je vous l'ai déjà dit, mais il faut comprendre les vérités bibliques parce que sinon on passe à côté et puis on se prend des baffes inutilement. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Ce qui est important de comprendre quand Paul dit ça, et Paul, il est à Rome. Oui, il est à Rome. Et c'est la fin de sa vie. Ça veut dire que là, on n'a plus le Saul de Tarse. Hein. Si on était au début avec Saul de Tarse, je pourrais à peu près comprendre. Non, non. Là, on est à la fin de sa vie. Il a ouvert des églises partout. Il a prôné l'amour et tout ça. Et à la fin de sa vie, à Rome, il dit cette vérité-là. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Vous voyez ? Et Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? Qui peut connaître le cœur de l'homme ? Dieu, c'est ça. Mais nous, par contre, eh ben on ne connaît pas le cœur de l'homme. Quand je fais la... Là, je ne l'ai pas amené, mais je n'ai pas mis la diapo, mais quand je fais la fenêtre de Johari, pour ceux qui ont fait le vase restauré, ben on voit les quatre carreaux d'un être humain et il y a des choses cachées derrière certains carreaux. Et on les découvrira qu'au fur et à mesure. En conclusion, nous avons besoin des uns des autres pour vivre, mais notre vie ne doit pas être fondée sur un autre être humain. Notre vie doit être fondée sur Dieu, notre vie est en Christ. Nous n'avons plus à mettre nos attentes, nous n'avons plus à mettre nos attentes pour être comblées sur les épaules d'un autre être humain, il n'a pas la capacité d'y répondre. Demandons à Dieu de combler nos manques, nos carences, guérir nos blessures, et il le fera. Pour ça, il nous faut une vraie communion avec le Seigneur. Il nous faut une vraie relation. Hein? Je ne sais pas, la relation avec Dieu, elle est personnelle. Chacun de nous ici, on a notre relation avec Dieu. Mais ce que Dieu nous demande dans sa Bible, c'est d'être intime avec lui, d'être intime. C'est-à-dire, c'est le papa parfait. Hein? C'est toi qui étais orphelin parce que tu n'as pas eu les parents parfaits. Tu as peut-être eu des bons parents, mais il y a un côté de toi, c'est spirituel, tu as un côté de toi qui est orphelin, orpheline. Et ça ne dépend pas de tes parents ni des êtres humains, c'est parce qu'il y a eu cette coupure avec Dieu. Si tu arrives à te reconnecter avec Dieu, mais pas intellectuellement, pas de façon religieuse, mais vraiment parce que tu as compris que tu es son enfant, c'est lui qui t'a créé. Dans le psaume 139, il est dit, c'est moi qui a décidé que tu serais sur cette terre. Si tu arrives à comprendre ça, à t'abandonner, à te lâcher, parce que beaucoup de gens ont du mal à rentrer dans cette intimité avec Dieu. Et c'est dommage, c'est triste, mais on ne peut pas inventer ça. Il n'y a pas de formule mathématique pour ça. Tu ne peux pas dire, tiens, regarde ce gars-là et je trouve qu'il irait bien pour toi. Allez, tombe amoureux de ce gars-là, puis débrouille-toi, quoi, fais quelque chose, quoi. Il y a des gens comme ça, ils sont célibataires, puis on dit, mais pourquoi ils ne trouvent pas permis? Regarde, celle-là, elle est bien, celle-là, d'ailleurs. Mais je dis quoi, tu veux qu'il tombe amoureux là, d'office avec celle-là? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas une formule mathématique, l'amour. Si tu... c'est nos tripes. C'est tomber en amour avec Jésus, c'est personnel. C'est chacun qui a sa relation. Mais à partir du moment où on décide de dire, Seigneur, je veux vivre avec toi cette vie d'intimité, alors tu reçois son amour, cet amour que tu as besoin. Il y a un lâcher-prise. Déjà, ce que tu as vu ce soir peut t'aider, tu vois, c'est-à-dire arrête de mettre des attentes sur les êtres humains, sinon tu vas être déçu toute ta vie. Mets tes attentes sur Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de sentir ton amour. Et là, tu verras que tu pourras passer du temps avec Dieu sans t'ennuyer, sans avoir l'impression qu'il faut faire un devoir religieux ou je ne sais pas quoi encore. Non, juste de dire, waouh, je me sens bien dans ta présence. Juste connaître ça. Et ça va changer ta vie. Cultivons, entretenons, faisons croître à chaque instant nos pensées dans la foi en Jésus-Christ et dans ce que dit sa parole. Méditons ces versets qui nous amènent dans la vérité. Oui. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oui, à chaque fois, on a le mot confiance. À chaque fois, c'est en qui tu mets ton espérance, en qui tu donnes ta vie, avec qui tu parles intimement et que tu confies ta vie. C'est ça qu'il est question ici. Et ça se travaille dans les pensées. C'est ce que Paul dira aux Philippiens. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'importance de ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu nourris dans ta tête? De quoi tu nourris ton âme? Aujourd'hui, on a le danger des réseaux sociaux. On a le danger des smartphones où on va passer 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Mais ça nourrit pas l'âme, ça. Ça nourrit plein de choses du monde. Mais c'est pas ça qui va te guérir. C'est pas ça qui va venir au plus profond de toi ressentir l'amour de Christ qui va te guérir. Avec quoi tu nourris tes pensées? C'est seulement dans une relation profonde avec Dieu que tu pourras subvenir à tous tes besoins, et notamment celui de te sentir aimé, aimé par un amour inconditionnel. C'est ça la source de guérison intérieure. C'est l'amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'aime tel que tu es. Autant dans ce monde-là, tu es obligé de faire des efforts, tu es obligé de faire beaucoup pour te sentir aimé, même si tu n'y arrives pas au final, ça ne marche pas. Mais tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour te sentir aimé. Mais c'est un amour qui est conditionnel, parce que les êtres humains ne peuvent donner qu'un amour conditionnel. Quand tu es dans leur sens, eh bien, ils t'aiment. Mais quand tu n'es plus dans leur sens, mais ils ne t'aiment plus. C'est comme ça, c'est l'amour humain. Mais non, mais il faut vivre avec la réalité. Tu vois, mais cet amour que tu as besoin, celui qui va combler ce qu'on a vu au départ, toutes tes carences affectives, ce que tu cherches, retrouver ce pourquoi tu es né. Tu es né pour être en relation avec Dieu. C'est l'ADN, c'est l'origine qui nous manque. C'est qu'on a coupé cette relation. Tant que tu n'es pas revenu dans cette relation à Dieu, où tu as tout l'amour de Dieu qui t'entoure, ben, il te manquera toujours quelque chose. Tu essaieras toujours de le combler par des artifices. Matériel ou comme on a vu tout à l'heure, toutes sortes de dépendances, tu vois. Ça peut être sexuel, ça peut être tout ce que tu veux et tu seras déçu. Il y a vraiment que cet amour-là et qui se cultive, qui s'entretient. Vous savez, moi, je ne suis pas né dans l'amour, moi. Moi, je suis né en dehors de l'amour. Moi, j'ai eu des parents qui voulaient plus d'enfants et moi, je suis arrivé et puis je suis un accident. Et je suis arrivé 12 ans après ma sœur. Donc, je n'ai pas connu l'amour, moi. Et en fait, en réalité, j'ai connu l'amour avec Dieu. J'ai connu l'amour avec Dieu. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Mais j'ai connu l'amour, je me suis senti... En fait, Dieu est devenu mon papa. Et c'est devenu mon refuge. C'est-à-dire que quand j'allais mal, eh ben, c'est près de lui que j'allais. Et je ressentais cet amour. Je sais qu'il m'aime. Je suis son enfant. Et ça, j'aimerais que tout le monde le vive, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. Vous savez, moi, j'ai eu une petite enfance, regardez le tableau, regardez, un petit garçon dans une petite ville, dans un petit magasin. Et j'ai grandi les étapes de ma vie, c'est-à-dire que moi, j'ai cru dans ce monde-là que j'allais réussir, que j'allais avoir de l'argent, que j'allais pouvoir me payer tout ce que je voulais, et puis que je serais aimé parce que j'aurais réussi. J'y ai cru. Et je suis arrivé pas mal dans la hiérarchie sociale. Mais en réalité, il n'y avait rien qui avait changé à l'intérieur. Tout était vide à l'intérieur. Et ça, c'est désespérant. Désespérant. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et là, je peux... Vous savez, moi, je n'avais pas confiance en moi. Je manquais d'estime de moi. Tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. Tout ce que j'enseigne, je l'ai vécu. Mais à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, que j'ai eu une relation intime avec lui, tout a changé. Tout a changé. C'est incroyable. Vous voyez? Et j'ai aimé les êtres humains. C'est contradictoire par rapport à ce que je vous dis. Et c'est là que j'ai aimé les êtres humains, parce que j'ai appris à les aimer comme ils sont. C'est une liberté. C'est une liberté d'aimer les gens comme ils sont. C'est la guérison de tes blessures profondes par la réception de l'amour de Dieu en toi qui va te permettre d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et ainsi d'avoir des attentes réalistes avec tes proches. C'est ainsi que tu pourras protéger ton cœur. Hein, on a vu tout à l'heure. Garde ton cœur, tes pensées, plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on espère tous. C'est croquer la vie, c'est manger la vie, c'est vivre. Sans être frustré, déçu, malheureux, se sentir mal à l'aise, un mal-être en nous. C'est ça qu'on a besoin. Moins d'attente envers tes proches veut dire moins de déception. Et en évitant le plus possible la déception, tu protèges ton cœur et tu permets aux sources de la vie, la joie de Dieu, de continuer de couler en toi et tu resteras dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non. Mais il faut l'avoir en tête pour dire « Ok, mais je sais où je mets mes efforts, je sais où je mets ma volonté, je sais comment je vais faire pour rester heureux. Ça ne va pas être facile, mais comme dit le Seigneur, avec moi, tout est possible. » Amen. Plus d'attentes irréalistes. Comment pourrais-je exiger des autres qu'ils soient comme moi je veux, alors que moi-même, je n'arrive pas à être comme je veux? On peut l'aggraver celle-là. Prends une décision ce soir. J'en remets. Après, je mets le PowerPoint sur le site, si vous voulez. C'est bon? Prends une décision ce soir. Décide de ne plus te faire piéger par l'ennemi parce que tu comprends qu'il veut t'emmener dans la tristesse, dans la déception, en brisant tes relations avec tes proches. Amen. Gagnons en maturité. Que ce soir, on comprend en sortant de ce lieu que ce n'est pas mes proches qui sont en question. Ce n'est pas celle en qui je crois parce que j'ai donné de l'affection, j'ai fait plein de choses pour elle. Ce n'est pas elle le problème. Le problème, c'est l'ennemi qui veut te détruire dans ton cœur. C'est ça le problème. Décide de résister au diable en disant à ton âme, ce n'est pas grave, personne n'est parfait, à commencer par moi. Refuse d'en vouloir à toutes ces personnes qui n'ont pas répondu à tes attentes. Tu pourras même leur dire dans l'amour que tu as été déçu. Mais tu ne leur en veux pas. Tu leur as déjà pardonné. Et surtout, tu décides de continuer à les aimer afin de protéger ton cœur et de laisser couler la vie en toi. Et c'est alors que tu peux venir dans ton refuge, dans les bras de ton papa, parfait, qui t'aime comme tu es, celui qui peut vraiment te consoler par son amour. Il est le seul qui te connaît parfaitement. Il saura te parler, te guérir et te redonner courage. Je ne sais pas si vous connaissez le fils prodigue. Alors bien sûr, vous connaissez le fils prodigue, mais le tableau de Rembrandt. C'est un tableau où vous avez le papa qui est assis. Hein, c'est le père. Et puis, il a ses bras comme ça qui entourent le fils prodigue. Vous voyez ? Mais c'est un petit peu ça, le refuge. Le refuge, c'est quand ça ne va pas dans ta vie. Tu vois ? Tu viens, tu représentes, tu vois, tu as un moment de méditation, tu as un moment de communion avec Dieu, tu viens dans ses bras d'amour et il te sert. Et il t'aime tel que tu es. Même si la journée n'a pas été bonne, même si on a dit du mal sur toi, même si les choses ne se sont pas passées comme tu aurais voulu, il t'entoure de ses bras d'amour. Waouh, ça c'est beau. La joie de l'Éternel est ta force. Et elle est bien trop précieuse pour que tu la perdes en laissant l'ennemi te la voler. Trois fois, amen, amen et amen. Ne te fais pas voler ta joie. C'est comme ça que l'ennemi nous attaque. Il vole notre joie. Ne te fais pas voler ta joie. Et pour ça, tu résistes. Tu résistes. On va prendre un petit temps, 5 minutes, juste pour avoir cette communion avec Dieu. Pour tes blessures, pour tes déceptions, pour les choses qui ne se sont pas passées comme tu aurais voulu. Pour tout ce que tu vis en ce moment. Que tu t'abandonnes, qu'il y ait un lâcher-prise. J'aimerais laisser le temps au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Que tu ressortes de ce lieu avec la conviction que Dieu est à l'œuvre dans ton cœur, qu'il va réparer les brèches, qu'il va te donner ce que tu as besoin et que petit à petit, les guérisons vont s'opérer dans ton âme et que tu vas apprendre à vivre avec les réalités bibliques. Pas avec les choses de ce monde, mais avec les réalités bibliques. Seigneur, je te demande d'agir maintenant, Seigneur. Nous te laissons toute la place maintenant, Seigneur. Oh Seigneur, viens, viens dans notre âme, Seigneur, maintenant. Viens parler à chacun de tes enfants. Tu connais les besoins de chacun de tes enfants ici présents. Alors Seigneur, maintenant c'est toi qui agis. Nous te laissons toute la place. Viens, Seigneur, et agis. Agis dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus.
Vers toi, je crie. Dieu.